Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec le titre. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures BAII est prête à financer 3 projets en Indonésie. L'Indonésie ne peut pas être séparée des valeurs religieuses. La ministre des Finances a prévu la croissance en 2016 a augmenté à 5%. L'Association de métiers Indonésie-Palestine, Ichimi demande la politique de main d'œuvre étrangère est évaluée. Et enfin, les touristes européens et du Moyen-Orient ont visité la destination touristique Chiatar. Voici le journal complet. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures BAII financera 3 projets potentiels en Indonésie, à savoir une route à péage à Sumatra, les centrales électriques, le financement opérationnel et la maintenance des réservoirs. Cela a été déclaré le vice-président de BAII, Lucky Eko Wuryanto, récemment. Concernant le montant des fonds, il est encore en discussion avec le gouvernement. Au moins, le financement opérationnel du barrage et la centrale électrique Java 7 peut être versé cette année. Pendant ce temps, la route à péage Sumatra en 2018, les 3 projets seront le 5e projet financé par la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Auparavant, BAII a financé le développement des zones bidonvilles et le développement des infrastructures régionales. La religion ne peut pas être séparée de la vie du peuple de l'Indonésie. La valeur religieuse qui est bien pratiquée devient un moyen d'unifier la nation. Le ministre des Affaires religieuses, Lukman Hakim Saifuddin, a dit que la religion ne pouvait pas être séparée de la vie de la nation indonésienne. L'esprit et une motivation religieuse est une source de force dans la nation afin d'atteindre l'indépendance, défendre la souveraineté nationale et maintenir l'intégrité de la République d'Indonésie. Il a été dit le ministre Lukman Hakim Saifuddin mardi 3 janvier à Jakarta. Une religion qui est bien appliquée doit être l'élément qui peut former le caractère de cette nation qui est diversifiée. Par conséquent, toutes les personnes religieuses doivent se rendre compte que les valeurs de la religion est un élément décisif de l'intégration nationale. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a dit que la prévision provisoire de la croissance économique d'Indonésie en 2016 pourrait atteindre 5% au mieux de l'année dernière, de 4,8%. C'est ce qu'a affirmé la ministre Sri Mulyani au cours d'une conférence de presse sur la réalisation provisoire du budget d'État du changement 2016 à Jakarta. Sri Mulyani Indrawati a expliqué que ses prévisions étaient meilleures parmi les pays du G20 et d'autres pays en développement, dont la plupart est encore affectée largement par le ralentissement économique mondial. Il a affirmé que la croissance économique de 5% est réalisable en supposant que le 4e trimestre 2016, l'économie a progressé d'au moins 4,7%, soutenu par l'amélioration de la consommation des ménages et de l'investissement. En outre, le taux d'inflation national a également montré une performance relativement sobre tout au long de 2016, à savoir seulement 3,02%, ou plus faible que l'hypothèse du budget d'État révisé de 4%. La stabilité économique pendant 2016, selon Sri Mulyani Indrawati, est également évidente à partir du taux d'échange de roupies qui était de 13 307 roupies par dollar américain, plus forte que les hypothèses budgétaires révisées de 13 500 roupies par dollar américain. L'Indonésie et la Palestine ont construit et inauguré l'Association d'amitié Indonésie-Palestine, PIFA, à la fin de décembre 2016 à Amman, en Jordanie. Selon l'information de l'ambassade d'Indonésie à Amman, reçue à Jakarta, lors de l'inauguration du PIFA, l'ambassadeur indonésien au Royaume de Jordanie et en Palestine, Teguh Wardoyo, a déclaré que la mise en place de PIFA est une mesure de renforcer et d'améliorer les relations entre les peuples de Palestine et de l'Indonésie. À cette occasion, Teguh Wardoyo a expliqué l'histoire du soutien d'Indonésie aux Palestiniens qui se développe dans des solides relations bilatérales permanentes et continue de croître au fil du temps. Les relations de l'État entre les deux pays se développent de plus en plus parmi les Palestiniens et les Indonésiens qui sont fondées sur l'amour et le respect mutuel. Teguh Wardoyo a également cité l'affirmation de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, au 60e anniversaire de l'Asie et de l'Afrique en 2015. Peut-être qu'actuellement, il n'y a aucun problème international qui est plus important pour l'Indonésie et est très proche du cœur du peuple de l'Indonésie, en plus de la question palestinienne. L'inauguration de PIFA a été suivie par les membres du Parlement national de la Palestine, Bilal Qassim et Zuhair Sunduka, membres de l'Organisation d'indépendance de la Palestine, OLP, et du Bureau politique accrédité arabo-palestinien, Imran Al-Khatib, et un certain nombre de personnels de l'ambassade palestinienne à Amman. L'Association des intellectuels musulmans indonésiens, ICMI, demande au gouvernement d'évaluer la politique des mains d'affaires étrangères qui est de plus en plus assouplie. Il a déclaré par le président de l'ICMI, Jimli Asidiki, mardi à Jakarta. Il a affirmé que la politique assouplissement des mains d'affaires étrangères a été mal interprétée par certaines personnes, de sorte que le gouvernement doit évaluer des politiques telles que l'exemption de visa. Selon Jimli Asidiki, le gouvernement doit déterminer le système audit des heures de travail qui n'est pas encore appliqué en Indonésie, comme la considération commerciale entre les pays. Les touristes étrangers qui visitent la destination touristique nautique Ciater, Subang, Java West sont encore dominés par les touristes européens, principalement des Pays-Bas et l'Allemagne. C'est ce qu'a déclaré le directeur des relations publiques de PT Sariater, Yuki Azuania, cité par Tempo à Ciater mardi le 3 janvier. Cependant, selon Yuki, ces dernières années, les touristes étrangers du Moyen-Orient, en particulier l'Arabie Saoudite, ont commencé à venir. Le nombre de touristes du Moyen-Orient a battu d'autres arrivées de touristes d'Asie comme Singapour, la Malaisie et la Corée. Elle a dit que cette tendance est tout à fait choquante et encourageante. Selon Yuki Azuania, les touristes d'Arabie Saoudite évaluent Ciater comme le paradis sur terre en raison de paysages naturels, les montagnes exotiques et son temps frais. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les diplomates russes ont été déportés ». Le mois dernier, le président Barack Obama a déporté 35 diplomates russes des États-Unis. Les diplomates russes sont considérés d'être impliqués dans les affaires du piratage au cours de la mise en œuvre des élections présidentielles américaines il y a quelque temps. Donald Trump du Parti républicain a remporté l'élection qui a battu Hillary Clinton. En comptage, Clinton a remporté le vote populaire, mais Donald Trump a remporté le vote collège électoral qui détermine à occuper la chaise de la Maison-Blanche 4 ans dans le futur. Dimanche 1er janvier 2017, les diplomates qui ont été déportés ont quitté Washington, D.C. Cette information est transmise par l'agence de presse de la Russie, RIA, se référant à l'information de l'ambassade de Russie aux États-Unis, Outre la déportation, les diplomates russes, Washington a également ordonné la fermeture de deux installations utilisées par la Russie au Maryland et New York. Les États-Unis ont accusé la Russie a fait ces deux endroits comme un moyen de collecter des renseignements. Moscou a nié toutes les allégations des États-Unis. Le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, a déclaré que Washington essayait de détruire les relations en faisant les allégations. Kremlin a menacé de faire les représailles. Mais le président Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne déporterait pas les diplomates américains de la Russie. Le président américain élu Donald Trump doute la conclusion du renseignement américain que la Russie est intervenue dans l'élection présidentielle par le piratage informatique. Donald Trump veut que la source de renseignement américain assure que l'allégation de piratage est très grave. Lors de la campagne, Donald Trump a déclaré qu'il apporterait les résultats de l'élection présidentielle à la Cour s'il a perdu. Dans une enquête secrète par la CIA, au début de la semaine de décembre, il a été constaté que la Russie cherche un moyen afin de gagner Donald Trump à l'élection. Le président Barack Obama a donné une évaluation des allégations de cyberattaque contre l'élection présidentielle. Dans le rapport du Washington Post 9 décembre 2016, il y a des personnes proches de Moscou ont donné email confidentiel de l'équipe de Hillary Clinton à WikiLeaks. La lettre a été publiée avant l'élection. La déportation dans la diplomatie n'est pas une nouvelle chose. Les diplomates ne peuvent pas être touchés par des poursuites judiciaires car ils ont immunité, mais ils peuvent être déportés. L'autre partie n'est pas en mesure d'interférer cette question bilatérale, mais généralement, le monde espère que les relations entre les deux pays sont stables car elles sont l'indicateur de l'équilibre économique et politique mondial. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 4 janvier 1946, la capitale de l'Indonésie a été déplacée à Yogyakarta. L'arrivée des troupes néerlandaises est pour coloniser l'Indonésie. Le 9e Sri Sultan Hamengkubuwono a proposé de déménager la capitale à Yogyakarta le 4 janvier 1946. Puis Soekarno et Hatta, en utilisant le train, a déménagé à Yogyakarta. Les deux proclamateurs ont quitté Sultan Syahrir et un groupe de pro-négociation avec les Pays-Bas à Jakarta. L'autre information est le Myanmar et indépendance de la Grande-Bretagne le 4 janvier 1948. À la mi-19e siècle, la Grande-Bretagne a contrôlé officiellement le Myanmar. Dans l'ère de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais occupent le Myanmar. L'ère de l'occupation japonaise est utilisée par le peuple du Myanmar à organiser leur mouvement d'indépendance en fondant la Ligue de la Liberté Populaire Antifasciste sous la direction d'Aung San. Après la défaite du Japon, les Britanniques ont retourné au Myanmar, mais c'est parce que la Ligue de la Liberté Populaire Antifasciste avait une grande influence parmi les gens. Le pays est devenu indépendant du Royaume-Uni le 4 janvier 1948. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le succès d'atterrissage de Spirit sur Mars le 4 janvier 2004. Depuis, la mission spatiale a été lancée par les États-Unis et l'Union soviétique au début des années 50. Il y a plusieurs fois, les faisceaux spatiaux sont envoyés dans l'espace pour enquêter la planète Mars, notamment pour trouver un nouvel monde semblable à la Terre. Après de nombreuses missions sur Mars ont échoué, enfin, le 4 janvier 2004, la sonde de la NASA, ILS Spirit ou Mer A ou Mars Exploration Rover A, a atterri avec succès sur la surface de Mars. L'une des découvertes scientifiques les plus importantes sont la preuve de la présence des eaux dans le passé à l'endroit d'atterrissage. Série de talks, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, pour la rubrique suivante, voici la mise au point sur l'environnement et pour le titre, l'Université d'Indonésie est un meilleur campus vert en Indonésie. Universitas Indonesia, UI, a gagné de nouveau le prédicat du meilleur campus vert en Indonésie et classé le 31e rang du monde de la version du UI Green Metric World University Ranking 2016. Cela a été rapporté par le président du UI Green Metric World University Ranking, professeur Riri Fitrisari, au bâtiment du rectorat du UI Depok, récemment cité par Antara. Tandis que le deuxième rang au 43e rang est placé par l'Institut de Technologie de 10 novembre et l'Institut de l'Agriculture de Bogor, IPB, a placé le 3e ou le 57e rang dans le monde. UI Green Metric est une agence de notation qui est logée au sein de l'Université d'Indonésie et a été acceptée en tant que membre du groupe d'experts du classement international Observatoire IREC dans la 6e conférence d'IREC en avril 2012 à Taipei. Selon Riri Fitrisari, UI Green Metric est une innovation d'UI qui a été largement connue internationalement comme le premier classement d'université dans le monde basé sur l'engagement élevé dans la gestion de l'environnement. D'année en année, il y a l'augmentation de l'enthousiasme des participants des universités dans le monde à participer au classement du campus plus vert. On peut voir, à partir du nombre croissant de participants du Green Metric Ranking of World University en 2016 et à 516 universités de 74 pays. En 2015, suivi par 407 universités de 65 pays. Il y a également plusieurs nouveaux pays qui ont rejoint en 2016, à savoir l'Algérie, le Bahreïn, la Finlande, le Honduras, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Nouvelle-Zélande, le Nicaragua, la Nigeria, la Norvège et le Venezuela. Alors qu'en Indonésie, il y a 49 universités qui ont participé à l'UI Green Metric et s'efforcent la qualité du campus à travers la conformité de l'indicateur d'UI Green Metric. En outre, le professeur Riri Fitrisari a expliqué en 2016, l'UI Green Metric a initié un réseau d'universités appelé UI Green Metric Network Hub. Ce réseau sera utilisé comme un forum pour les universités qui participent à l'UI Green Metric de partager les meilleures pratiques qui ont été appliquées dans chaque université. Le classement de l'UI Green Metric of World University est basé sur trois philosophies de base, à savoir l'environnement, l'économie et l'équité, ou 3E. Certaines améliorations de la méthodologie et de l'enquête sont menées toujours par l'équipe de l'UI Green Metric of World University. L'une d'elles est de développer les poids d'indicateurs de l'évaluation se composant de statistiques de verdure du campus de 15%. En outre, la gestion des déchets de 18%, l'énergie et le changement climatique de 21%, la consommation d'eau de 10%, le transport de 18% et l'éducation de 18%. Cette année est la 7e annonce depuis le début des classements universitaires mondiaux basés sur le campus vert. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix d'Indonésie à Jakarta. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, BAWI, financera 3 projets potentiels en Indonésie, à savoir une route à péage à Sumatra, les centrales électriques, le financement opérationnel et la maintenance des réservoirs. Cela a été déclaré le vice-président de BAWI, Lucky Ekowirianto, récemment. Concernant le montant des fonds, il est encore en discussion avec le gouvernement. Au moins, le financement opérationnel du barrage et la centrale électrique Java 7 peut être versé cette année. Pendant ce temps, la route à péage Sumatra en 2018, les 3 projets seront le 5e projet financé par la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Auparavant, BAWI a financé le développement des zones bidonvilles et le développement des infrastructures régionales. La religion ne peut pas être séparée de la vie du peuple de l'Indonésie. La valeur religieuse qui est bien pratiquée devient un moyen d'unifier la nation. Le ministre des Affaires religieuses, Luqman Hakim Saifuddin, a dit que la religion ne pouvait pas être séparée de la vie de la nation indonésienne. L'esprit et une motivation religieuse est une source de force dans la nation afin d'atteindre l'indépendance, défendre la souveraineté nationale et maintenir l'intégrité de la République d'Indonésie. Il a été dit le ministre Luqman Hakim Saifuddin mardi 3 janvier à Jakarta. Une religion qui est bien appliquée doit être l'élément qui peut former le caractère de cette nation qui est diversifiée. Par conséquent, toutes les personnes religieuses doivent se rendre compte que les valeurs de la religion est un élément décisif de l'intégration nationale. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a dit que la prévision provisoire de la croissance économique d'Indonésie en 2016 pourrait atteindre 5% au mieux de l'année dernière de 4,8%. C'est ce qu'a affirmé la ministre Sri Mulyani au cours d'une conférence de presse sur la réalisation provisoire du budget d'État du 5 juin 2016 à Jakarta. Sri Mulyani Indrawati a expliqué que ces prévisions était meilleur parmi les pays du G20 et d'autres pays en développement, dont la plupart est encore affectée largement par le ralentissement économique mondial. Il a affirmé que la croissance économique de 5% est réalisable en supposant que le 4e trimestre 2016, l'économie a progressé d'au moins 4,7%, soutenu par l'amélioration de la consommation des ménages et de l'investissement. En outre, le taux d'inflation national a également montré une performance relativement sobre tout au long de 2016, à savoir seulement 3,02%, ou plus faible que l'hypothèse du budget d'État révisé de 4%. La stabilité économique pendant 2016, selon Sri Mulyani Indrawati, est également évidente à partir du taux d'échange de rupiah qui était de 13 307 rupiah par dollar américain, plus forte que les hypothèses budgétaires révisées de 13 500 rupiah par dollar américain. L'Indonésie et la Palestine ont construit et inauguré l'Association d'amitié Indonésie-Palestine, PIFA, à la fin de décembre 2016 à Amman, en Jordanie. Selon l'information de l'ambassade d'Indonésie à Amman, reçue à Jakarta, lors de l'inauguration du PIFA, l'ambassadeur indonésien au Royaume de Jordanie et en Palestine, Teguh Wardoyo, a déclaré que la mise en place de PIFA est une mesure de renforcer et d'améliorer les relations entre les peuples de Palestine et de l'Indonésie. À cette occasion, Teguh Wardoyo a expliqué l'histoire du soutien d'Indonésie aux Palestiniens qui se développe dans des solides relations bilatérales permanentes et continue de croître au fil du temps. Les relations de l'État entre les deux pays se développent de plus en plus parmi les Palestiniens et les Indonésiens qui sont fondées sur l'amour et le respect mutuel. Teguh Wardoyo a également cité l'affirmation de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, au 60e anniversaire de l'Asie et de l'Afrique en 2015. Peut-être qu'actuellement, il n'y a aucun problème international qui est plus important pour l'Indonésie et est très proche du cœur du peuple de l'Indonésie, en plus de la question palestinienne. L'inauguration de PIFA a été suivie par les membres du Parlement national de la Palestine, Bilal Qassim et Zuhair Sundoka, membre de l'Organisation d'indépendance de la Palestine, OLP, et du Bureau politique accrédité arabo-palestinien, Imran Al-Khatib, et un certain nombre de personnels de l'ambassade palestinienne à Amman. L'Association des intellectuels musulmans indonésiens, ICMI, demande au gouvernement d'évaluer la politique des mains d'œuvre étrangères qui est de plus en plus assouplie. Il a déclaré par le président de l'ICMI, Jimli Asidiki, mardi à Jakarta. Il a affirmé que la politique assouplissement des mains d'œuvre étrangères était mal interprétée par certaines personnes, de sorte que le gouvernement doit évaluer des politiques telles que l'exemption de visa. Selon Jimli Asidiki, le gouvernement doit déterminer le système audit des heures de travail qui n'est pas encore appliqué en Indonésie, comme la considération commerciale entre les pays. Les touristes étrangers qui visitent la destination touristique nautique Chiater, Subang, Java West sont encore dominés par les touristes européens, principalement des Pays-Bas et l'Allemagne. C'est ce qu'a déclaré le directeur des relations publiques de PT Sariater, Yuki Azuania, cité par Tempo à Chiater mardi le 3 janvier. Cependant, selon Yuki, ces dernières années, les touristes étrangers du Moyen-Orient, en particulier l'Arabie Saoudite, ont commencé à venir. Le nombre de touristes du Moyen-Orient a battu d'autres arrivées de touristes d'Asie comme Singapour, la Malaisie et la Corée. Elle a dit que cette tendance est tout à fait choquante et encourageante. Selon Yuki Azuania, les touristes d'Arabie Saoudite évaluent Chiater comme le paradis sur terre en raison de paysages naturels, les montagnes exotiques et son temps frais. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Banyuwangi en province de Java Est pour goûter rujak soto, alimentation typique de Banyuwangi. Alors, restez avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de Radio République Indonésia. Outre les écoutes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, jusqu'à présent, Banyuwangi est célèbre pour sa beauté naturelle et des plages. Toutefois, dans cette région, les touristes peuvent également faire un voyage culinaire, parce qu'il y a beaucoup d'alimentation délicieuse typique de Banyuwangi. Pour les amoureux de l'alimentation, il y a une cuisine typique de Banyuwangi, à savoir rujak soto. Rujak soto, le nom culinaire, est un peu étrange, parce que la cuisine typique de Banyuwangi combine deux goûts culinaires complètement différents, à savoir rujak et soto ou la soupe. Rujak est un aliment traditionnel qui habituellement fait dans mélange de divers types de légumes et de fruits avec la sauce ozarashi. Un mélange de saveurs de la sauce ozarashi de rujak et de la bouillon de la soupe produit une sensation unique et savoureuse. Cette alimentation unique est habituellement servie avec des craquelins de crevettes comme matériel complémentaire. Chers auditeurs, dans rujak soto, soto qui est utilisé normalement conformément au goût ou en restaurant qui le servit, comme la soupe au tripe de bœuf, soupe de viande de bœuf ou la soupe de poulet. Tandis que rujak utilisé est un mélange de légumes avec la sauce ozarashi et la pâte. Pour faire l'assaisonnement, la sauce ozarashi est mélangée avec le sel, les arachides grillés, le sucre brun, l'acide et une sorte de banane nommée pisang klutuk ou banane pierre. Pisang klutuk est l'ingrédient important dans la fabrication de cette cuisine typique de Banyuwangi. Si vous ne l'utilisez pas, Le goût est moins délicieux. L'assaisonnement qui est déjà préparé est mélangé avec des légumes cuits comme le chou frisé, les haricots, le chou et les morceaux de tofu et de tempeh frites. Une fois terminé, Rujak est servi dans un bol et versé avec le bouillon de la soupe et le contenu de la soupe comme le poulet, la viande de bœuf, le poumon ou les tripes de bœuf. Selon un humaniste de Banyuwangi, Hasnan Singodimayan, Rujak Soto est présent à Banyuwangi depuis les années 1970. Cette nourriture est une innovation des amoureux de Rujak. Si vous étiez à Banyuwangi et vous voulez goûter cette nourriture, vous ne vous inquiétez pas. Rujak Soto est facile à trouver dans Banyuwangi. Pour goûter une portion de Rujak Soto, vous devez payer environ 12 000 à 15 000 rupiah. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec le titre « Rujak Soto, alimentation typique de Banyuwangi ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Retrouvons-nous dans le programme Apprendre l'indonésien. Aujourd'hui, notre sujet a pour titre Makan bersama ou manger ensemble. Écoutez d'abord le vocabulaire et les expressions liées à la conversation aujourd'hui. Makan bersama. Makan bersama. En français, manger ensemble. Qualitas yang baik. Qualitas yang baik. En français, bonne qualité. Makan. Makan. En français, manger. Soupe kentang. Soupe kentang. En français, la soupe de pommes de terre. Memesan. Memesan. En français, commander. Air minéral. Air minéral. En français, l'eau minérale. Jus buah. Jus buah. En français, le jus de fruits. Salade sayur. Salade sayur. En français, la salade de légumes. Idée yang bagus. Idée yang bagus. En français, bonne idée. Maintenant, je vais vous donner un exemple de conversation intitulée « Makan bersama » ou « Manger ensemble » et cette conversation entre Lia A et Mira B. A. Hai Mira, apakah kamu pernah makan di restoran itu? Hai Mira, apakah kamu pernah makan di restoran itu? En français, salut Mira, as-tu mangé à ce restaurant? B. Ya, saya makan beberapa kali di restoran tersebut. Ya, saya makan beberapa kali di restoran tersebut. En français, oui, j'ai mangé plusieurs fois dans ce restaurant. B. Masakannya adalah kualitas yang baik. Masakannya adalah kualitas yang baik. En français, la cuisine est de bonne qualité. A. Kamu pernah makan sup kentang? Kamu pernah makan sup kentang? En français, tu as mangé la soupe de pommes de terre? B. Tentu saja, itu makanan kesukaan saya. Tentu saja, itu makanan kesukaan saya. En français, bien sûr, il est mon plat préféré. A. Saya akan memesan masakan itu. Saya akan memesan masakan itu. En français, je vais commander ce plat. Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? En français, qu'est-ce que tu veux manger? Kamu mau minum air mineral atau jus buah? Kamu mau minum air mineral atau jus buah? En français, tu veux boire l'eau minérale ou le jus de fruit? B. Saya pikir saya ingin makan sesuatu yang ringan. Apakah kamu punya saran? Saya pikir saya ingin makan sesuatu yang ringan. Apakah kamu punya saran? En français, je pense je veux manger quelque chose de léger. Tu as des suggestions? A. Bagaimana dengan salad sayur-sayuran? Bagaimana dengan salad sayur-sayuran? En français, que diriez-vous une salade de légumes? B. Ide yang bagus. Ide yang bagus. En français, bonne idée. Saya akan pesan salad sayuran dan air mineral. Saya akan pesan salad sayuran dan air mineral. En français, je vais commander la salade de légumes et l'eau minérale. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Cette fois, nous allons présenter des chansons pop chantées par groupe de musique Pasto. Pasto a été fondé en 2002, se compose de 4 personnes, telles que Bayu, Rudolf, Melto et Ryan. Il a participé aux divers festivals de musique, entre autres Java Jazz, en 2006 et 2007. Le nom de Pasto est l'idée d'un chanteur de jazz célèbre indonésien. Il est Glenn Fredly. Pasto signifie quelque chose qui a l'esprit et ne jamais fatigue. Maintenant, avec Maya Estianti, l'une des personnels de Ratu, comme une productrice, Pasto existe avec la nouvelle formation, entre autres Ryan comme chanteur et guitariste, et Melto comme chanteur et clavériste a réussi à sortir un album intitulé « Un ami ou un petit ami » en chanson de groupe de Ratu avec le nouveau arrangement.
Tak begini, ku ada yang punya. bagaimana denganmu? Tapi ku menikmati rasa-rasa ini saat ku bersamamu.
J'écoutais toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson intitulée « Un ami ou un petit ami » chantée par Pasto. Auparavant, ce groupe a joué la musique noire ou R&B, mais maintenant, des chansons de Pasto sont plus pop et rock, comme par exemple dans une chanson intitulée « I need you ». Au milieu de l'année 2009, Pasto a sorti un album intitulé « Je ne peux pas » qui a la nuance mélo et continué avec un single à la fin de l'année 2009. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Pasto intitulées « Bila kau tak cinta ».
Mencoba, jangan bilang. cinta. Jika kau ada di sini, ku tahu tak mudah untuk memaafkan diriku. Jika kau terus membalas, tak ada akhirnya. Jangan bilang masih cinta jika tak coba lupakan. Memang ku telah kecewakanmu, pernah sakitimu, maafkan aku. Sampai kapan kau sanggup melupakan
Suara minda le monde entier, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous êtes en train d'écouter des chansons pop chantées par Pasto. En décembre 2005, Pasto est plus célèbre après avoir sorti son premier album. Et au début de 2009, il a sorti une chanson intitulée « J'y reviendrai ». Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter les deux dernières chansons intitulé Tanya Hati dan Jujur Aku Tak Sanggup. Tous les deux sont chantés par Pasto. Merci de votre fidélité et à bientôt.
Tuhan tolonglah hapus dia dari hatiku, hatiku. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau hempas semua rasa yang tercipta untukmu. Tanpa pernah melihat betapa ku mencoba jadi yang terbaik. Bisa dirimu yang mencintaiku tulus tanpa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Yang jawab semua, tanya hati.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Kisah sedihku, ku meninggalkan dia. Betapa bodohnya aku. Dan kini aku menyesal melepas keindahan itu kamu. Tuhan tolonglah aku. ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa. Dan ku jalani semua cinta selain kamu, tapi tak ada yang sama. Beribu cara ku tempuh untuk melupakan kamu, tapi tak mampu. Tuhan tolonglah aku kembalikan dia ke dalam pelukku, karena ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français, ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.